une qui est spécifique, c'est la discipline positive. Donc ça va être difficile pour moi de vous exprimer ça en 21 minutes, mais je vais le faire. Mais la difficulté, c'est que la discipline positive, sa particularité, c'est que ça se vit. Ça se vit notamment en atelier. Donc, quand je fais des conférences, ça dure une heure et demie, les conférences, et il y a des mises en situation, des activités ludiques et pratiques que les participants vivent à l'intérieur, vraiment pour comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant quand on s'adresse à lui de telle ou telle manière. Mais je vais vous présenter ça quand même avec les mots aujourd'hui. Donc la discipline positive, globalement, si on devait en donner une définition, on dirait que c'est une approche éducative, ni permissive, ni punitive, qui va utiliser la fermeté et la bienveillance simultanément, avec l'encouragement, et on verra justement par la suite ce qu'est l'encouragement, et tout ça dans le but de développer chez l'enfant finalement des compétences de vie comme la confiance en soi, la coopération, le respect, l'estime de soi, etc. Tout ce qu'on a envie de voir fleurir de positif et d'agréable chez nos enfants, pour qu'ils soient heureux et épanouis. Donc dans cette définition, il y a trois termes qui sont importants à retenir. Le premier, c'est la fermeté. La fermeté, on va imaginer que c'est le respect du cadre, des règles, des consignes, ce cadre qui va permettre finalement à l'enfant de se sentir en sécurité. Ça, c'est important pour qu'il puisse grandir et se sentir en sécurité. Mais très vite, si on utilise uniquement cette fermeté, on va tomber dans des travers qui vont nous faire utiliser parfois la punition, le chantage ou toutes sortes de techniques qu'on connaît aujourd'hui et dont on sait qu'elles vont apporter chez l'enfant la rébellion, la revanche, le retrait, le ressentiment. D'accord ? Donc l'idée, c'est de pouvoir appliquer cette fermeté en co-construction avec les enfants dans la famille. Mais pas seulement cette fermeté. On va utiliser justement, c'est le deuxième terme, la bienveillance. La bienveillance, on va imaginer que c'est justement tout ce qui est le respect de soi, le respect du monde de l'autre, le respect de nos besoins, comment on va pouvoir justement respecter l'autre tout en respectant ses besoins et nos propres besoins. Et finalement, c'est comme s'il y avait une troisième voie qui allait exister, puisqu'on va utiliser la fermeté et la bienveillance à la fois. Et c'est comment on va faire pour pouvoir utiliser ça simultanément dans notre façon de nous adresser, dans notre posture. Et c'est justement cette nouvelle posture moderne, nouvelle, qu'on va devoir développer pour être juste avec nos enfants. Et enfin, le troisième terme, c'est l'encouragement. Alors, encourager nos enfants, c'est exactement l'inverse de récompenser nos enfants, complimenter nos enfants. On va voir que la récompense ou le compliment ne vont pas aider nos enfants à développer des compétences de vie, comme l'estime de soi, la confiance, etc. Donc, on va se centrer sur l'encouragement. Mais donner du courage à l'enfant, ça ne va pas de soi, ça s'apprend. Hein, ce sont des outils dont on manque aujourd'hui. Et c'est ce que propose la discipline positive, tout un tas d'outils qu'on va pouvoir utiliser à notre manière pour pouvoir permettre à nos enfants de grandir harmonieusement. Donc voilà, en tout cas, pour ces trois termes-là. D'où vient la discipline positive? Alors souvent je dis DP, hein, parce que c'est discipline positive, si parfois je dis DP, vous inquiétez pas, c'est discipline positive. D'où elle vient? L'intérêt de cette technique, cette méthode, c'est qu'elle est là à partir d'une théorie solide. Pourquoi? Elle vient d'Alfred Adler. Alors Alfred Adler, ça ne va peut-être pas vous parler, déjà c'est quelqu'un qui est mort depuis très longtemps. C'était un élève de Freud, donc c'était un psychanalyste, un psychiatre autrichien. Et à un moment donné, il s'est séparé de Freud. Pourquoi? Parce que pour Alfred Adler, le sentiment social était très important. Pour lui, pour qu'un individu soit heureux, il faut qu'il se sente appartenir à un groupe. Il faut qu'il contribue à ce groupe et qu'il se sente appartenir à ce groupe. Et donc, c'est ce que va développer Alfred Adler. Et je vous expliquerai un petit peu après, plus précisément, ce qu'il va développer. Et d'Alfred Adler va aussi sortir... Dreykurs, c'est un autre monsieur, c'est l'élève d'Adler. Lui, il va modéliser la pensée d'Adler. Parce que la pensée d'Adler, elle était assez difficile à comprendre. Et Dreykurs, il va avoir cet atout-là de pouvoir la modéliser et de la centraliser avec l'éducation de l'enfant. C'est vraiment ça qui va développer Drake Hurst. Donc là, on est sur l'aspect théorique, vraiment théorique. Et aux États-Unis, il y a une femme, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, elle a eu des enfants, elle a trouvé ça très difficile d'avoir des enfants, et elle s'est plongée dans ces lectures-là, et elle a trouvé ça formidable. Et elle a décidé elle-même de commencer à créer des petits ateliers avec les parents, avec les enseignants, etc. Et la discipline positive est née. Ça fait 30 ans qu'elles font ça aux États-Unis. C'est arrivé en France, en 2011-2012, par une psychologue clinicienne qui est partie aux États-Unis, qui a trouvé ça, qui a trouvé ça formidable, et qui a traduit le livre. Donc, il y a une association américaine de discipline positive, mais maintenant, il y a une association française, et puis maintenant, ça se développe dans tout le monde. C'est-à-dire que dans chaque pays, pratiquement, en tout cas les grands pays aujourd'hui, il y a une association de discipline positive qui se développe et qui permet de former les parents à la parentalité, c'est-à-dire apprendre à être parent sur ces bases-là théoriques. Donc, les principes adlériens. Je vais vous en parler un peu. Ça peut paraître un peu très théorique et un peu complexe. Alors, je les ai écrits pour que je les lise avec vous et pour que... Voilà, je sais que je vais être enregistrée, donc je vais quand même les lire à haute voix. Mais au moins, je les ai écrits pour que vous puissiez aussi vous repérer avec ça. Les principes adlériens, c'est ça. L'homme est un être social. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Il a besoin d'appartenir, d'avoir une place, une importance, et de contribuer. Et ça, c'est le point fondamental. Vous comprenez l'importance dans une famille de se sentir appartenir à sa famille, ou dans sa classe, de se sentir appartenir à sa classe, de contribuer, c'est se sentir heureux, et donc on a envie de faire bien, de faire les choses pour les autres et pour soi-même. Chaque être humain mérite respect et dignité, quel que soit son âge. L'approche adlérienne est globale, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à l'individu, à son inconscient, à son corps, mais aussi à sa famille, à sa situation professionnelle. Vraiment, c'est censé être global. L'encouragement est un levier d'apprentissage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'encouragement, c'est vraiment central, et je vous expliquerai un peu comment ça se passe, l'encouragement. Tout comportement a une raison d'être, c'est-à-dire que si un enfant a un comportement inapproprié, puisque ce sont les termes qu'on utilise en discipline positive, on ne dira jamais une bêtise, on ne dira jamais un mauvais comportement, mais on va plutôt parler de comportement inapproprié. Eh bien, lorsqu'il y a un comportement inapproprié, ça a une raison d'être. Un enfant ne se comporte pas mal comme ça juste pour nous embêter. Et justement, le cycle adlérien l'explique très bien. L'enfant va vivre une expérience. De cette expérience, il va avoir une perception. De cette perception, il va avoir une croyance. Et de cette croyance, va mettre en place un comportement. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. L'expérience d'un enfant, imaginez qu'il arrive dans une école qu'il ne connaît pas, il va entrer dans une classe qu'il ne connaît pas. Il ne se sent pas donc appartenir encore à cette classe. Il décide de faire une blague pour voir. Et cette blague fait rire ses camarades. Sa perception, c'est « quand je fais une blague, je fais rire ». Sa croyance, « quand je fais rire, je me sens appartenir, j'appartiens au groupe ». Le comportement, je vais continuer à faire rire systématiquement pour me sentir appartenir. Et c'est ce qui fait que d'une expérience, d'une perception et d'une croyance, l'enfant va entrer dans un comportement dans lequel il ne va pas pouvoir sortir. Et c'est ce qui fait que, on va dire, tout comportement a une raison d'être, même quand ce comportement est inapproprié. Donc ça permet aussi de se dire que quand un enfant se comporte d'une manière inappropriée, c'est que probablement il ne se sent pas appartenir soit à sa famille, soit à sa classe. Et tout ça, ça se travaille. Et c'est ce qu'on développe en discipline positive, justement, comment aider l'enfant à se sentir appartenir. Mais on peut aller au-delà de l'enfant dans sa famille, ça peut être aussi un individu dans la société, un homme ou une femme dans sa ville, ou dans son pays, etc. Comment on peut se sentir appartenir et contribuer pour se sentir bien? Voilà pour les principes adlériens. J'espère que que ça allait, l'explication, parce que quand on est dans la théorie, forcément, c'est toujours un peu moins sympa. Alors, pourquoi maintenant la discipline positive intervient? Eh bien, il y a deux choses. La première chose, ce sont les neurosciences. Les neurosciences, ce sont toutes les découvertes neuroscientifiques sur le cerveau de l'enfant qui nous apprennent aujourd'hui qu'un enfant, par exemple, de moins de 6 ans, quand il entre dans une émotion forte, il ne va pas avoir le cerveau suffisamment mature pour se sortir tout seul de son émotion. Donc c'est le parent qui va devoir avoir comme rôle d'aider son enfant à se calmer, etc. Ça, c'est un exemple. On apprend aussi dans les neurosciences que les punitions, l'humiliation ou les châtiments corporels vont, vont susciter dans le cerveau, des zones du cerveau vont s'activer qui vont montrer que c'est très néfaste pour le développement du cerveau et donc pour le développement de l'enfant. Et toutes ces études neuroscientifiques sont formidables finalement pour les parents d'aujourd'hui parce qu'elles vont permettre de vraiment comprendre sur le plan de la biologie ce qui se passe dans le cerveau quand on s'adresse de telle ou telle manière à son enfant. Et ça, c'est un progrès énorme parce qu'on n'est plus en train de partir sur des présupposés ou non. Scientifiquement, on peut voir que dans le cerveau de l'enfant, telle ou telle zone vont s'activer en fonction de notre façon de s'adresser à lui. Donc ça, c'est très important. Donc, deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ça arrive maintenant ? Eh bien, la société est en mutation. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait il y a 50 ans, en termes d'éducation, ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. L'idée, c'est que parfois, vous pouvez, par exemple, entendre un enfant s'adresser à un adulte et puis vous dire « Mais jamais, moi, j'aurais osé parler comme ça à mes parents. Il se serait passé un truc pas cool. » Et là, je vois un enfant qui s'adresse comme ça, mais c'est pas possible, c'est pas normal, etc., etc. Alors, pourquoi ? L'idée. On part du principe que, il y a 50 ans, il y avait un modèle familial qui était une forme d'autorité, on va dire, verticale, d'autorité de soumission, où le père avait toute cette autorité sur la femme, d'accord ? Et donc, l'enfant grandissait avec ce modèle-là. Et donc, se mettait au niveau de la mère, c'était comme ça, on écoutait le père et c'était comme ça. Ensuite, il y a un modèle plus égalitaire qui s'est formé au sein du couple, au sein de la femme et de l'homme, un modèle plus égalitaire, on va dire plutôt horizontal, que l'enfant a intériorisé. Et en grandissant, ces enfants-là, du coup, se sont permis aussi d'entrer en relation sur un autre mode plus égalitaire. Et c'est ce qui fait que ça crée complètement des dysfonctionnements parce que les parents continuent à utiliser des méthodes qui fonctionnait quand on était sur le modèle plutôt vertical. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Et c'est en ça que la discipline positive est formidable, puisqu'elle va nous proposer tout un tas d'outils, des outils concrets qu'on va pouvoir utiliser et se sentir beaucoup plus en harmonie avec la nouvelle génération. C'est une technique un peu plus moderne et concrète qui va permettre d'être plus à l'aise. Et à la fois, on voit quand même à quel point c'est moderne, mais en même temps, ça vient d'il y a longtemps, puisque c'est Adler qui a nourri ça à la base. Hein. Ok. Alors comment on procède dans l'atelier ? Globalement, on a des ateliers où on reçoit les parents 2 heures, 7 fois, 7 semaines d'affilée, où on va mettre des situations en jeu de rôle, des situations du quotidien qui sont difficiles, où on va se mettre à la place de l'enfant, prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se rejoue. On va utiliser aussi tous les outils de la discipline positive, les vivre, sentir ce que ça nous fait, et les tester à la maison. Et voir que chez certaines familles vont utiliser tel outil. Chez d'autres, ils ne l'utiliseront jamais. Ils vont plutôt utiliser autre outil. Ce n'est pas des solutions plaquées. Chaque outil va pouvoir être utilisé de manière singulière en fonction de la famille et des enfants que nous avons. Concrètement, l'idée, c'est quoi ? Par exemple, imaginons qu'on est dans un atelier. La première question que je vais poser en général aux parents que je reçois, c'est quels sont les défis que vous rencontrez à la maison avec vos enfants ? En gros, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à la maison ? Est-ce que quand je vous dis ça, il y a des choses qui vous viennent ? Ça peut être, par exemple, le coucher, c'est difficile. Les mensonges, le brossage des dents. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai des problèmes avec mes enfants, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté avec vos enfants, par exemple ? Est-ce que vous avez, comme ça, des choses qui vous viennent ?
Dire bonjour aux personnes.
La politesse, ouais. Politesse. Voilà, ouais. Eh bien, voyez, ça c'est un exemple de choses que j'ai écrites là, qui peut revenir dans les ateliers. Lors des premiers ateliers, les parents nous font part de tout ce qu'ils ont comme difficulté à la maison. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, on peut avoir énormément de choses encore. Et ensuite, l'autre question que je pose aux parents, c'est... Alors, quelles compétences de vie vous aimeriez voir fleurir chez vos enfants ? Vous aimeriez que vos enfants, ils soient comment ? Quelles qualités vous aimeriez voir chez vos enfants ? Quand je vous pose la question, est-ce qu'il y a des petites qualités comme ça qui vous viennent à l'esprit, que vous auriez envie de voir ?
L'altruisme,
le respect. Ouais, tout à fait. Et bien, vous voyez, c'est aussi ce genre de choses qu'on pose aux parents lors des ateliers. Et donc, ça donne encore une piste. qualités et compétences de vie qu'on veut voir chez nos enfants. L'idée, c'est quoi? Ces listes, à quoi elles vont nous servir lors des ateliers? Eh bien, quand on va se mettre en situation vis-à-vis d'un enfant, en atelier, un jeu de rôle ou une activité, et qu'on va s'adresser à un enfant, on va se poser la question, quand je m'adresse comme ça à mon enfant, à mon avis, est-ce que là, je pense que je vais développer telle ou telle qualité chez mon enfant? Tiens, quand je lui dis d'aller dans sa chambre, que je lui dis de me laisser tranquille, 5 minutes, etc., est-ce que je pense que je vais développer ses qualités ou pas? Et si la réponse est non, ça veut dire qu'il va falloir aller piocher dans les outils de la discipline positive d'autres solutions. Et c'est en ça que les outils nous aident. Combien de temps il nous reste? Excuse-moi, parce que je ne vois pas devant. 5 minutes. Ok. Donc j'accélère. Mais j'avais... On est bon, là. On est bon dans les temps. Les outils de la discipline positive. Là, effectivement, c'est pareil. Je n'ai pas tout mis. J'ai mis ceux que moi, je vais utiliser aussi un peu plus, ou que certains parents utilisent. Parce qu'effectivement, la discipline positive, ça se vit. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous transmettre là, je l'ai aussi, moi, vécu de l'intérieur. Je l'ai testé, tout ça, avec mes enfants. Par exemple, là, dans la discipline positive, il y a des outils qui sont intéressants. On pourra en reparler après dans les questions, si vous en avez. Mais par exemple, là, je vois les temps d'échange en famille. En discipline positive, on propose aux parents régulièrement de se réunir avec les enfants pour échanger sur la vie de la famille, sur les besoins de chacun, ce qui va pas. Ce n'est pas des réunions qui durent 2 heures, ça dure 10 minutes, mais on en fait régulièrement. Et ensemble, on peut parler d'un projet qu'on aimerait faire ensemble en famille, une balade, une sortie. Mais on peut aussi parler de la contribution à la vie de la famille. Qui veut faire quoi à la maison? Qui veut faire telle tâche ménagère? Mais qui ne se sentirait pas du tout à l'aise dans une autre tâche ménagère? On prend en compte l'enfant dans son besoin, mais aussi l'adulte dans son besoin d'aide. C'est très important. Il y a d'autres outils comme ça. Par exemple aussi, le connecter avant de corriger ou d'enseigner, c'est très important. Avant de transmettre quelque chose à un enfant, il faut le connecter. Et ça, pour le connecter, il y a différentes manières. On peut le toucher, on peut l'appeler, on peut le regarder. Mais si on le parle de loin et qu'on n'est même pas dans la même pièce, là, on n'est pas dans la connexion. Donc le message ne va pas passer de la même manière. Toutes ces choses-là, c'est du bon sens, mais qu'on a besoin de rééprouver en tant que parent. D'accord? Alors, je vais conclure en quelques mots. Parce que si vous avez des questions, on pourra repartir après. L'idée, c'est que vraiment, on est dans un soutien à la parentalité. L'idée qu'être parent, ça s'apprend. On devient parent avec l'expérience de nos enfants, mais on apprend aussi avec les autres parents, avec des outils qu'on met en pratique. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir une famille plus harmonieuse sur un échange, une écoute, un respect qui va pouvoir se mettre en place et qui va faire que la famille fonctionne mieux. On ne va pas devenir une famille parfaite, on ne va pas devenir des parents parfaits, mais on va devenir un peu plus conscient. Un peu plus conscient de ce qui pourrait être mieux pour nos enfants, mais aussi mieux pour nous en tant que parents. Et cette prise de conscience, elle se fait aussi avec les ateliers. Non, c'est une erreur, ok. Avec les ateliers, voilà. Donc, l'idée aussi, c'est que voilà, quand je suis devenue maman, j'ai décidé d'aller faire moi aussi des ateliers en tant que maman, parce que je trouvais ça vraiment complexe. Je ne comprenais pas, par exemple, quand je disais à ma fille, très gentiment, de faire quelque chose, elle me disait non. Ça, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai parlé pourtant gentiment. Donc, il doit y avoir une façon de faire que je n'ai pas. Soit je fais ce que mes parents ont fait, et a priori, aujourd'hui, ça ne va plus convenir. Soit je fais complètement l'inverse, mais alors je suis dans l'opposition et je ne suis pas dans la créativité. Donc j'avais besoin de savoir quelque chose, j'avais besoin d'apprendre. J'ai fait ces ateliers, j'ai trouvé ça formidable et aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir vous transmettre ce message et j'espère que ça vous a parlé et que vous avez envie d'aller plus loin dans la discipline positive. Bien. C'est bon, c'est parfait là,
ouais.
21 minutes
bon, 20 minutes, 40 secondes.